Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour à nos auditeurs, après une absence de quelques mois, c'est la rentrée. L'été s'est bien passé, tu as toujours blogué Michel, j'imagine.
Un peu.
Les sujets n'ont pas forcément manqué non plus.
Un peu, non mais je dois avouer quand même que j'ai passé pas mal de temps sur une plage merveilleuse qui s'appelle oui. Cruissant, oui. Avec le soir...
Sans Facebook
avec
et
le
sans
soir, avec le soir, quelques petits apéritifs avec ouais, des amis allemands d'ailleurs au Café de la Paix. Qui est un très beau café.
Oui, puis au Café de la Paix avec des Allemands, c'est tout un symbole quand même aussi.
Mais je ne le parle pas d'ailleurs, j'ai découvert le traducteur de Goebbels qui est merveilleux. Quoi, hein. Bientôt, on aura des écouteurs pour se faire, de sorte qu'on pourra quasiment parler en direct, en traduction simultanée avec des gens dont on ne pratique pas la langue, c'est merveilleux.
Alors, nous reprenons dans la langue de Racine et Corneille, dit-on, mais enfin, même si
on va essayer.
On va essayer. Nous reprenons donc notre programme avec au menu de cette première. Alors, les contrats aidés, polémique Bossis-Sandranier, c'est un petit peu comme ça que tu l'as intitulé, et tu avais fait d'ailleurs un billet sur ton blog. Après quoi, nous resterons dans le même style, sur le fond. Qui est responsable du massacre de nos centres-villes? Alors, c'est pas moi, c'est les autres. C'est un petit peu ce qu'on dit toujours. Mm-hmm. Dans une deuxième partie, campagne de com de Monsieur Baillet sur les LGV. Alors, Monsieur Baillet, ancien ministre, est redevenu patron de la Dépêche.
C'est une spécialité des allers-retours de ce genre, en fait. Mais il ne prend pas le TGV, là, en espèce. Hein. Il prend l'avion, il passe de ministre à patron de groupe de presse.
Mais là, il est bien redevenu le patron du groupe La Dépêche.
Hein. De fait, le patron du Parti radical, dont on ne cessera de dire que Madame Pinel, en fait, qui est celle qui a formé Monsieur Baillet, et la vice-présidente de la région Occitanie, au passage.
Alors, à propos de ça, petites et grandes manœuvres du PRG en région, c'est là-dessus que l'on terminera. Oui. Avant de passer à nos invités, alors aujourd'hui, Jean-Paul Joguin et Sophie Barbero, bonjour.
Bonjour à vous.
Nous vous consacrerons cette troisième partie, puisque vous avez ouvert un nouveau théâtre à Narbonne, le Théâtre Bleu, qui se trouve...
3... Avenue Pierre et Marie Curie.
Oui, c'est tout près du boulevard Féroul.
C'est au rond-point.
Pas très loin des Halles, il faut le préciser. Donc, un nouveau théâtre. Et nous y reviendrons là-dessus. Vous nous expliquerez la jeunesse, comment ça s'est fait et ce que vous avez l'intention d'y faire. Alors, Michel, donc, contrat aidé, polémique, Bossis-Sandranier, peux-tu nous resituer le cadre?
Oui, alors c'était cet été, on peut dire ça.
Torpeur
estivale. L'indépendance, c'est la joie de publier deux pages entières sur la baisse forcément scandaleuse des employés aidés dans ce département, et ce par les voies autorisées de mesdames Sandranier et Bossis, qui toutes les deux sont vice-présidentes socialistes du conseil départemental de l'Aude. Alors évidemment, un interview pour les intéressés, mettait en évidence le fait que, la situation allait être dramatique, en fait, dans ce département, et que dans les établissements dont elles avaient la compétence, tout ce qui relève de la prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, dans tout le secteur social du département, c'était vraiment épouvantable.
Alors, il est vrai sur le fond que ça va poser des problèmes à pas mal de gens et d'associations.
Oui,
sur le fond.
Oui, mais rétablissons un petit peu les chiffres, si tu permets, Jean-Claude,
C'est ça qui m'a
surpris.
Parce que forcément, c'était la faute à Macron.
Ben évidemment, donc le gouvernement qui a été mis en place le mois de juin, nous sommes en septembre, ça fait quand même le temps que la nouvelle majorité s'installe, que le nouveau gouvernement prenne ses fonctions, etc. Bref, il a été élu Monsieur Macron
au mois de mai. Et son Parlement au mois de juin.
Au mois de juin, donc nous sommes en septembre. Donc en quelques semaines, disons, voilà, M. Macron et sa nouvelle majorité responsables effectivement d'une baisse scandaleuse des emplois aidés. Sauf que Mme Bossis et Mme Sandry, que par ailleurs j'estime beaucoup, ce sont des dames qui font un travail remarquable et au demeurant fort sympathiques.
Oui, et que nous recevons régulièrement.
Régulièrement et avec grand plaisir. Bon, d'ailleurs. Sauf qu'elles ont oublié de dire une chose quand même, ces deux dames. C'est que la majorité à laquelle les trois députés socialistes du département de l'Aude, en fait, qui ne le sont plus depuis le mois de juin, ont voté, en fait, avec la majorité de M. Hollande et de M. Valls, une loi de finances 2017, c'est-à-dire celle
qui s'applique maintenant
aujourd'hui, dans laquelle il y avait 170 000 emplois aidés en moins.
Voilà. C'est ça, ouais. Pratiquement ce qu'on retrouve aujourd'hui.
Et que, bon, le problème, alors, autre difficulté, et qui n'a pas été évoquée évidemment par ces deux dames, c'est que les emplois aidés votés en baisse de 170 000 ont été, pendant les premiers mois, évidemment, pris d'assaut, si je puis dire, par toutes les structures qui ont besoin.
Oui, ceux qui restent.
Donc, pour effectivement les avoir, ces emplois aidés. De sorte que le pauvre Macron, si on peut parler comme ça, qui se retrouve à il se retrouve avec des demandes arrivant en flot, incapables de les satisfaire, parce qu'effectivement, la majorité précédente avait diminué 170 000. Et qu'est-ce qu'il fait faire à son gouvernement? Il fait revoter, fait voter plutôt une refusée, si je puis dire, d'employer des pour tenter de satisfaire cette
colmater
demande.
Colmater une certaine brèche,
quoi. Et alors, cela dit, il est vrai. Que le nouveau gouvernement, et donc Macron, a annoncé que pour 2018, il n'y aurait pas le même volume d'emplois aidés qu'en 2017.
Voilà, précisons bien, 2018.
Et en précisant que contrairement à ce qui était dit aussi par ces deux dames, et notamment d'autres acteurs qui utilisent ces emplois aidés allaient être ciblés sur des demandes prioritaires. Un exemple. Les maires des petites communes ont été les premiers à soulever ce problème et à se mobiliser. Sauf que, en 2018, ils continueront, les maires des communes rurales, à bénéficier de contrats aidés. Première remarque. Dans le secteur de Mme Bossis et de Mme Sandrani, par exemple.
Le social.
Mais là aussi, secteur prioritaire, les contrats aidés seront maintenus. Je veux bien que l'on fasse de la critique en soi, d'un gouvernement ou d'annonce publique d'un gouvernement en particulier. Mais de là quand même, à oublier ou à nier la responsabilité portée par le gouvernement précédent dont ces deux dames avaient la faveur et étaient particulièrement, en situation de les promouvoir, il y a quand même un minimum d'honnêteté intellectuelle qui devrait... On aurait dû les amener à dire d'entrée de jeu, nous portons quand même une part de responsabilité à cette affaire.
Voilà, être capable de reconnaître un petit mot. Oui, Jean-Paul Jouguin.
C'est toute la subtilité de la politique entre l'ancien gouvernement et le nouveau, je dirais. Les anciens n'ont pas renouvelé, le nouveau supprime. C'est-à-dire, c'est là que la subtilité intervient. Le résultat est le même.
Mais c'est surtout cette façon de dire c'est pas moi, c'est les autres. On assume ses
responsabilités, point. Et au moins, dans l'espèce, le nouveau gouvernement, j'assume mes responsabilités. Il y aura moins d'emplois aidés, mais ils seront priorisés sur des secteurs précis. Ça, c'est une claire, c'est net et sans bavure. Voilà. Par contre, on n'a pas le droit de dire, de mon point de vue, quand on a un minimum d'honnêteté intellectuelle et politique, dire ce gouvernement a baissé l'emploi aidé en 2017. C'est pas vrai.
Voilà.
Donc,
il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Dans le même état d'esprit, Michel, un article qui était paru récemment sur la déshérence des centres-villes qui t'a fait bondir un petit peu aussi, parce que c'était du même acabit, c'est pas ma faute, c'est la faute aux autres.
Oui, alors, Patrick Vignal est un garçon, c'était un nouveau député, c'est un député, un ancien député PS qui a été élu député Macron.
République en Marche.
Alors cela dit, une parenthèse, je le connais un peu, Patrick Vignal, il a été dès le départ, avant même qu'il soit candidat à la présidence de la République, Macron, un proche de ce monsieur, et il l'a soutenu, donc on peut pas le suspecter d'avoir changé comme ça de logiciel. Sinon de conviction, ça c'est une autre question. Ouais. En tout cas, bon, il était clair par rapport à son soutien vis-à-vis de Macron. Alors, Patrick Vignal, donc, se lance dans une campagne qui, elle aussi, a fait l'objet d'un article dans le Midi Libre, en fait, assez conséquent, hein, sous le titre, c'est pas moi qui l'ai inventé ce titre, hein, « Arrêtons le massacre des villes
hein, ».
Le massacre
des centres-villes.
C'est pas moi, hein, pas le centre-ville, c'est moi qui l'ai, c'est lui. Alors, là aussi, je suis attiré par l'expression « massacre des centres-villes », quand même, bon, effectivement. Et je lis l'article. Et Patrick Vignal de dire, en substance, « Je veux en faire une cause nationale, je veux que cela soit pris en compte par les pouvoirs publics au plus haut niveau, parce que, bon, nos centres-villes, ben, il n'y a plus de commerçants ». C'est vrai, il y en a de moins en moins, pour, en tout cas des enseignes qui appartiennent à des groupes qui sont franchisés, l'envahissement de par la lèpre publicitaire, comme l'expression que j'utilise assez souvent, la voiture, enfin, garant n'importe où, mais l'absence de parking, très peu de place pour ou d'investissement pour les déplacements, enfin bref.
Encore une fois, sur le fond, il a raison.
Il a raison.
Mais sur la forme.
Le problème. Alors, en plus, il rajoute, j'ai rencontré Madame Delga, en fait, à la région Occitanie, qui partage le même diagnostic.
Et qui va s'y attaquer.
Hein, et qui va s'y attaquer. Elle m'a même dit, qu'elle étudiait la création d'une société d'économie mixte. Régional, pour régler le problème.
Sauf que, encore une fois,
ce genre de compétences ne relève ni de l'État, ni de la région. Elle relève principalement, pour une raison simple, c'est parce que tous les leviers juridiques, politiques et financiers sont entre leurs mains, des collectivités locales, c'est-à-dire des communes et des intercommunalités. Que je sache, les programmes locaux d'urbanisme dépendent et ne dépendent que d'eux. De la même manière, la limitation ou l'interdiction de l'érection de panneaux publicitaires qui masquent le tiers d'une façade, comme j'ai pu le constater, classé dans Narbonne et dans son centre-ville, en plein secteur sauvegardé, ça relève de la responsabilité mais du maire de Narbonne.
Voilà.
Il a un règlement local de publicité et indépendamment de ce règlement local de publicité, il peut, s'il le veut, ne pas signer des contrats de marché public avec des groupes comme Experian, qui est un groupe publicitaire national, pour implanter et ériger d'immenses panneaux qui masquent, cachent des blocs des perspectives, hein, masquent des façades classées, ou tout simplement, bon, sont d'une laideur, en fait, épouvantable, en fait, à proximité, pour ne pas dire en plein secteur sauvegardé. On a l'exemple même d'une politique qui, à l'évidence, cherche un bâton de maréchal pour apparaître comme étant l'homme de la situation
pan-nationale. Et qui avance masqué, lui aussi.
Lui aussi, de sorte que je le suis. Suspecte un peu, le connaissant quand même de longue date, Patrick Vignal, de dire en substance et d'une manière libidinale en fait, au gouvernement actuel, il serait peut-être bien que vous désigniez une commission parlementaire ou pourquoi pas un secrétaire d'État et chargé spécialement de cette question.
À condition que j'en fus moi-même responsable. Et c'est là-dessus qu'on va conclure cette première partie et qu'on marque une première pause.